Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous espère au mieux en cette première journée de printemps qui est également la journée du bonheur. Et oui, c'est un peu le bonheur quand même chaque samedi matin en réalité de 9h15 à 10h sur RTL. Cette semaine encore, dans Nous voilà bien, votre magazine conso, des éclairages, des conseils et des recettes aux petits oignons. Rien que pour vous, place au sommaire. Ils sont obligatoires depuis 2015 et nous avertissent en cas d'incendie. Comment bien choisir nos détecteurs de fumée? Armelle Lévy, journaliste au service éco et conso d'RTL, nous explique tout ce qu'il y a à savoir. Le plastique est encore et toujours omniprésent dans notre quotidien. Alors comment le limiter quand on fait nos courses? Réponse avec Olivia Détroya, journaliste spécialiste de la grande consommation au Figaro Éco. Qui dit printemps dit retour des légumes que l'on attendait avec impatience. Et ça y est, elles reviennent enfin sur les étals de nos marchands. Comment se régaler avec les asperges? La cuisinière, auteure et journaliste Sonia Esguillan va vous mettre l'eau à la bouche.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
Ça casse les oreilles. Armelle Lévy, bonjour.
Bonjour.
Ça, c'est pour réveiller ceux qui sont encore au lit et qui ont juste allumé RTL en ce samedi matin. Ça, c'est le son d'un détecteur de fumée, Armelle Lévy. Est-ce qu'il sauve des vies chaque année?
Oui, il sauve plus de 500 vies chaque année. Avant la loi, et oui, on comptait 800 morts par an causées par des incendies domestiques. Aujourd'hui, c'est 3 fois moins, 260 décès par an. Alors franchement, c'est incroyable, 3 fois moins de morts en 5 ans. Depuis que les détecteurs de fumée sont obligatoires dans les logements, le risque d'incendie a aussi été divisé par 3. Les sapeurs-pompiers dénombrent 71 000 feux d'habitation par an contre 210 000 il y a encore 5 ans. Donc on peut dire qu'ils sont quand même bien utiles ces détecteurs, même si beaucoup reste à faire. Un incendie domestique se déclare encore toutes les 7 minutes en France.
C'est énorme quand même, Armelle.
Mais oui, contrairement à d'autres pays, on n'a pas vraiment de fait de prévention. On a dit aux Français, équipez-vous, mais sans dire comment un incendie intervient, quelles sont les bonnes et les mauvaises pratiques. Donc les incendies domestiques font toujours de nombreuses victimes, plus de 16 000 l'année dernière, à des degrés plus ou moins graves.
Comment ça fonctionne un détecteur de fumée? Comment est-ce qu'il détecte la fumée?
Eh bien, les seuls détecteurs de fumée autorisés en France sont des détecteurs de fumée optiques. Ils émettent une lumière et si de la fumée est présente dans la pièce, la lumière va se refléter sur les particules de fumée. Le détecteur va les reconnaître dans le faisceau de lumière puis déclencher l'alarme. Ce type de fonctionnement permet au détecteur de réagir vite, y compris au départ de feux lents qui peuvent couver pendant plusieurs heures avant de s'enflammer.
Mais qui doit fournir le détecteur de fumée? C'est le propriétaire ou le locataire? On ne sait jamais ça.
Alors c'est le propriétaire qui doit l'acheter et l'installer, mais c'est le locataire qui est chargé de l'entretenir et donc de changer les piles. Les détecteurs de fumée sont obligatoires que vous soyez en location ou propriétaire de votre logement ou d'une résidence secondaire, une maison de campagne, une villa de vacances. Vous devez en installer partout. Généralement, c'est le cas. 9 Français sur 10 sont équipés. Mais le tout, ce n'est pas d'avoir un détecteur de fumée, c'est surtout de le faire marcher. Je dis ça parce que je ne sais pas si vous faites ça aussi, mais on s'aperçoit que beaucoup de Français enlèvent les piles ou ne les changent pas quand elles sont usées parce qu'ils ont peur qu'ils sonnent pour rien. Donc il y a une forme de méfiance vis-à-vis de ce matériel. D'accord. Et justement, si vous pensez qu'il va se déclencher pour un rien, c'est uniquement parce qu'il n'est pas placé au bon endroit.
Est-ce qu'il existe différents types de détecteurs? Parce que vous nous parlez de piles, de secteurs, on les colle, on les visse.
Oui, alors à visser ou à coller, ça ne change pas grand-chose. Mais le détecteur qui fonctionne avec des piles normales, interchangeables, a une autonomie maximum de 5 ans. Une petite alarme, un petit bip va se déclencher pour vous signaler que la pile est usée et qu'il faut la changer. D'autres détecteurs fonctionnent avec une pile lithium. Alors là, pendant 10 ans, vous serez tranquille. Sauf que la pile ne se change pas. Quand elle est déchargée, il faut jeter le détecteur et en racheter un autre.
Ça coûte cher, un détecteur de fumée?
Ben, on en trouve à tous les prix, de 10 à plus de 100 euros.
C'est quoi la différence? C'est le moins cher qui est super pas efficace?
Ou alors, comment est-ce qu'on choisit pour ne pas vous faire enfumer, on vérifie que le détecteur a bien la norme NF. Ils sont tous efficaces et performants en réalité, mais il y en a qui sont simples et d'autres qui sont intelligents. Ce qui peut faire la différence, c'est la précision dans le fait de détecter la fumée. Si vous fumez chez vous, certains vont se déclencher. Un incendie, c'est une fumée grasse, mais une cigarette, c'est une fumée sèche. Donc d'accord, certains vont faire la distinction. D'autres détectent la montée en température parce qu'ils peut y avoir au départ peu de fumée mais une forte chaleur d'un seul coup. Et après, ce qui va vraiment jouer sur le prix, ce sont toutes les options supplémentaires. Certains modèles de détecteurs de fumée sont équipés d'un bouton de pause pendant 10 minutes environ. Si vous provoquez vous-même une forte fumée, vous faites trop griller une viande, ça vous est peut-être déjà arrivé.
Ou jamais.
Non. si la cheminée refoule de la fumée ou s'il y a trop de vapeur d'eau dans la pièce. Pour éviter d'avoir à grimper au plafond pour appuyer sur pause, certains sont dotés d'une télécommande pour activer la fonction et à la fin de la pause, il se remet en marche. Après, vous avez des détecteurs de fumée qui fonctionnent tout seuls. Il va sonner dans la pièce où il est placé. D'autres qui sont connectés à votre smartphone pour vous alerter si vous êtes absent. Certains sont interconnectés avec d'autres détecteurs placés dans les différentes pièces de la maison, si la maison est grande. Donc, ils vont sonner partout dans toutes les chambres pour réveiller tout le monde. Et d'autres encore sont reliés à des systèmes de télésurveillance, moyennant un abonnement mensuel couplé à l'alarme de la maison et aux options anti-cambriolage pour appeler les forces de l'ordre et les pompiers dès que le détecteur sonne l'alerte. Les habitants et le voisinage sont alors prévenus au plus vite.
Ouais, c'est quand même pas mal ça. Les détecteurs 2-en-1, fumée, monoxyde de carbone, ils sont vraiment fiables?
Oui, ils sont fiables, mais des associations de consommateurs comme le FC Que Choisir les déconseillent. Simplement parce qu'il est impossible de trouver l'emplacement idéal qui convienne aux deux détections. Le détecteur de monoxyde de carbone qui détecte les gaz toxiques, incolores et inodores des vieux appareils électroménagers et des appareils de chauffage doit être placé à côté de la chaudière. Tandis que le détecteur de fumée doit être posé à proximité des chambres. Donc, mieux vaut les acheter séparément.
Alors, on va se retrouver dans un instant parce qu'on a encore plein de questions à vous poser. Évidemment, Armelle Lévy sur les détecteurs de fumée. Ensuite, on parlera des alternatives au plastique parce que même si on fait des efforts, il y a encore trop de plastique. Et puis, Sonia Esguignan nous rejoindra pour nous parler des asperges. À tout de suite sur RTL.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Flavie Flamand sur RTL. Nous voilà bien.
Bienvenue dans Nous voilà bien, c'est votre rendez-vous traditionnel du samedi matin de 9h15 à 10h sur RTL. Sonia Esguignan va venir nous parler d'un légume qui fait fureur sur les étals en ce moment, c'est le retour de l'asperge, youpi. Et puis le plastique, c'est pas si fantastique que ça. Alors justement, Olivia Détroya va nous parler des alternatives, mais pour l'heure, Armelle Lévy est notre invitée pour nous parler des détecteurs de fumée. On doit tous en avoir chez soi. Armelle Lévy.
J'adore les chansons.
On salue Alexandra Polaczyk qui s'est occupée des musiques ce matin. Il fallait vraiment trouver des musiques en rapport avec la fumée. Elle a fait quand même très très fort. Dites-moi, on a bien entendu qu'ils étaient obligatoires, hein, les détecteurs de fumée. Si on n'est pas équipé en temps et en heure et qu'un accident se produit, est-ce qu'on est quand même assuré aujourd'hui?
Oui, alors ça ne se dit pas, mais dans les faits, c'est vrai. Les compagnies d'assurance vous dédommageront toujours, hein. Si vous n'avez pas de détecteur de fumée chez vous, la loi se veut plus incitative que punitive.
Mais on doit avoir combien de détecteurs chez soi? Ça dépend finalement de la taille de l'habitation, non?
Oui, c'est vrai. Alors pour un appartement de 60-80 mètres carrés, un seul détecteur suffit. Au-delà, il en faut un deuxième. Et pour une maison, c'est au minimum un par niveau. Pour une maison de 150 mètres carrés, deux ou trois détecteurs, c'est bien.
Est-ce qu'on est mieux protégé si on en met un dans chaque pièce?
Non, il y a des pièces à éviter. Par exemple, la cuisine, c'est à proscrire. Il va sonner dès que vous allez cuire un steak ou que l'huile de la friteuse va déborder.
C'est logique.
Ben oui, on n'en met pas non plus dans la salle de bain à cause de la vapeur d'eau ou dans le garage où il y a beaucoup de poussière et de la fumée. D'ailleurs, la poussière perturbe le signal à l'intérieur du détecteur. Elle est souvent la cause de déclenchement intempestif. Donc, comme changer les piles, le nettoyer fait partie de l'entretien de l'appareil qui incombe au locataire. Mais si vous donnez un coup de chiffon ou d'aspirateur, l'appareil reprendra un fonctionnement normal.
Ouais, c'est comme un réveil matin, quoi, en fait.
Il est poussière dans votre réveil matin.
Où est-ce qu'on doit le poser, notre détecteur de fumée? Est-ce qu'on doit impérativement le fixer au plafond, puisque la fumée monte?
Oui, bravo, au plafond. Effectivement, parce que la fumée monte. Et si vous le posez sur un mur à hauteur de personne, vous ne serez pas sûr de bien détecter la fumée. Donc, il faut placer son détecteur de fumée sur le plafond du couloir, de la salle à manger, du salon ou de la chambre. Petite précaution d'usage, le détecteur de fumée doit se trouver à plus de 3 mètres d'une source de vapeur, à plus d'un mètre et demi d'un luminaire, à plus d'un mètre d'un foyer à bois et dans tous les cas, à 30 cm de l'arête d'un mur.
Et si le détecteur se déclenche pendant la nuit, on est assuré qu'il nous réveille en fait?
Ah oui. Oui, ça fait
le bruit de tout à l'heure.
Exactement, ouais. Ça fait vraiment mal aux oreilles. 85 décibels, ça réveille. La sonnerie n'est pas du tout agréable à entendre. Elle est très stridente, mais sachez que pour les sourds et les malentendants, certains modèles envoient des faisceaux lumineux pour éclairer le chemin, ou des vibrations vers un appareil que l'on place sous l'oreiller, ou encore des sons à basse fréquence. Et on recommande de placer le détecteur de fumée à proximité des chambres à coucher pour que les occupants de la maison ou de l'appartement soient bien réveillés et alertés en cas de départ de feu, parce que la majorité des décès lors d'un incendie ne sont pas causés par les flammes, mais par les émanations toxiques qui accompagnent le dégagement des fumées. Et selon l'Observatoire de la sécurité des foyers, 70% des incendies meurtriers ont lieu la nuit.
Alors un petit conseil tout bête quand même, comment est-ce qu'on peut éviter les incendies ?
Eh bien, il suffit de regarder quelles sont les grandes causes de départ de feu à la maison. Les experts de la télésurveillance des maisons Verussure vous disent qu'il y a d'abord la surcharge d'installations électriques. Typiquement, ce sont les multiprises chargées sur d'autres multiprises avec 10 chargeurs dessus, de téléphones, d'ordinateurs, de télé, de box. C'est la cause la plus importante de court-circuit. Donc, on ne charge pas les multiprises et on les débranche quand on n'est pas là. Les autres départs de feu sont dus aux appareils de cuisson laissés sans surveillance. Les casseroles, la friteuse et les sources de chaleur, la cheminée, les bougies, là encore laissées sans surveillance, en particulier la nuit. Donc, il faut penser à tout éteindre quand vous quittez la pièce. Et surtout, un dernier conseil, n'enlevez jamais les piles. Même quand vous partez en vacances ou en week-end, les pompiers vous diront qu'il y a trop de risques que vous oubliez de les remettre ensuite à votre retour. On rappelle le chiffre, les détecteurs de fumée sauvent plus de 500 vies par an.
Merci beaucoup Armelle Lévy pour toutes ces informations. Grâce à vous, on est évidemment plus avertis et plus prudents. Donc merci à vous d'avoir été
merci.
Avec nous ce samedi matin. Je vous laisse rejoindre le service Conso d'RTL. Très bon week-end Armelle
Merci,
Lévy.
Vous aussi.
À bientôt.
Le plastique, c'est dramatique.
Bonjour Olivia Desfroyas.
Bonjour Flavie.
Soyez la bienvenue sur RTL. Merci d'être avec nous ce samedi matin. Vous êtes journaliste spécialiste de la grande consommation au Figaro Éco. Alors, il y a des efforts qui ont été faits, mais le plastique et notamment les emballages plastiques sont encore très présents dans les rayons de nos commerces. Pourquoi son remplacement est-il si complexe ?
Eh bien Flavie, parce que même si c'est pas tout à fait à la mode de le dire, les plastiques, c'est pas fantastique. Mais c'est pratique. Pourquoi on a du mal à s'en passer ? Parce que c'est une matière qui a un tas de propriétés intéressantes. C'est résistant, c'est souvent très léger, ça protège très bien les aliments, c'est durable, c'est d'ailleurs un peu ce qu'on lui reproche, et surtout c'est pas cher. Ça s'est imposé donc en fait dans plein de domaines de notre vie quotidienne, dans l'alimentaire, le bâtiment, les jouets. Et le retour en arrière est assez compliqué parce qu'en fait, il y a peu d'alternatives qui cumulent tous ces avantages. Ceci dit, comme vous le disiez, il y a des efforts qui ont été faits. On estime par exemple que les sacs plastiques à usage unique, vous savez, qu'on distribuait gratuitement en caisse et qui ont été interdits depuis 2016, ça a baissé de plus de 85%.
Le plus gros des problèmes, en fait, c'est le plastique à usage unique aujourd'hui.
Oui, effectivement, parce qu'on a des boîtes en plastique qui, si on les réutilise des dizaines de fois, ont au final un bon bilan environnemental. Ce qui est problématique, c'est l'usage unique et le fait que potentiellement, on les jette et on les retrouve dans la nature pendant des années. Alors, on peut les recycler, me direz-vous, mais ça suppose qu'on les collecte correctement parce qu'une bouteille en plastique dans l'océan, qu'elle soit recyclée ou non, ça reste de la pollution.
Et on en ramasse tous les étés encore, malheureusement. Il y a parfois quand même des aberrations, Olivia. Je pense aux fruits qui sont vendus sous plastique encore. Comment c'est possible en 2021 aujourd'hui ?
Oui, on a vu aussi des œufs sans coquille sous blister. Ça a d'ailleurs fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux et à raison. Alors en fait, c'est des choses qui avaient disparu globalement dans les grandes surfaces. Mais vous avez remarqué qu'avec la crise du Covid, on a eu une forme de retour en arrière, un réflexe d'hygiène où les gens ne voulaient plus acheter des produits non emballés. Donc les enseignes en ont remis tout simplement pour les rassurer.
Et donc ça, évidemment, la crise du coronavirus a aggravé la problématique du plastique en France ?
À très court terme, en tout cas. Dans les premières semaines de la crise, les fabricants d'emballages plastiques ont vu bondir leur production de 30%. On a eu tendance à tout emballer, on l'a dit, parce qu'on ne savait pas comment le virus se transmettait. Donc, c'était une façon de se rassurer. On a eu un boom aussi sur les flacons de gel hydroalcoolique. Et là encore, du plastique. Et enfin, tous les petits contenants pour la grande distribution qui se sont multipliés parce qu'on mange plus chez soi qu'au resto. Ceci dit, maintenant qu'on est sorti de ces réflexes d'urgence et d'hygiène, on voit que ces envies de protéger la planète et les enjeux environnementaux se font encore plus forts qu'avant la crise.
On va se retrouver dans un instant, Olivia Desfroyas, parce que vous avez souligné le recyclage de certains plastiques. On se pose toujours des questions et vous allez nous y répondre d'une façon très claire. Ce sera dans un instant sur l'antenne d'RTL. À tout de suite.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
I'm sipping wine, sip. In a robe, trip. I look too good to be alone. Ooh. My house clean, my pool warm, just shake, smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the key swing and the
Qui s'appelle Silk Sonic. Voici le premier extrait de l'album à venir. Et c'est un grand retour à la soul des années 70. Et c'est dans Nous Voilà Bien ce samedi matin.
Flavie Flamand sur RTL, Nous Voilà Bien. Jusqu'à 10h sur RTL.
Flavie Flamand, Nous Voilà Bien.
Merci d'être avec nous, on est ensemble jusqu'à 10h dans un instant. Sonia Esguignon, vous la connaissez, elle nous livre ses recettes chaque semaine, sera notre invitée. Mais pour l'heure, on parle du plastique avec Olivia Détroya. Vous savez le recycler, vous, le plastique?
Regardez l'air du plastique se mélanger à l'harmonie.
Parce que ça n'est pas simple, hein, en fait, Olivia Détroya, parce que certains plastiques se recyclent, mais là encore, ce n'est pas simple, c'est plutôt compliqué. On ne sait jamais où les mettre.
Oui, parce qu'en fait, certains types de plastiques, comme le PET, hein, c'est celui qui sert pour vos petites ou vos grandes bouteilles d'eau ou de soda, le recyclage, ça se fait très bien. Mais encore, il faut-il les collecter, on l'a dit, hein, aujourd'hui, il y a seulement 60% de ces bouteilles et de ces flacons qui ont une deuxième vie parce qu'on ne les met pas toujours dans le bon bac. Et puis au-delà des bouteilles, il y a d'autres types de plastique, comme vous savez, les films qui enveloppent les revues ou les bouteilles d'eau, les pots de yaourt, de crème, les barquettes qui ne sont pas ou peu recyclées parce qu'en fait, on n'a pas forcément la bonne technologie ou pas les bonnes filières de recyclage. Donc, tout type de plastique confondu, on ne recycle aujourd'hui que 23% des plastiques qu'on consomme.
Mais on les met dans les poubelles jaunes, on est d'accord, dans les poubelles de papier. En fait, il faut bien vérifier finalement. Hein.
Il y a ça, mais il y a aussi toutes les bouteilles qui sont jetées dans la rue, en fait, et qu'on ne peut pas toujours trier. Le tri est possible dans certaines poubelles en dehors de chez soi, mais pas toujours. Et donc, celles-là, elles échappent au recyclage.
J'invite en tout cas tous nos auditeurs à retrouver sur les replays de Nous Voilà Bien les émissions que l'on a consacrées au recyclage. Aujourd'hui, les alternatives au plastique, elles existent. Hein. On va en parler. L'alternative aux bouteilles, finalement, c'est quoi?
C'est le verre. Voilà, il y a la gourde, hein, la solution la plus écologique pour le coup. On a le verre, le carton, les briques pour les jus de fruits ou les fontaines qu'on voit beaucoup dans les entreprises ou les lieux publics. Et on a aussi les bouteilles à gazéifier l'eau qu'on retrouve chez soi.
Et les couverts jetables?
Alors, ils sont interdits depuis le 1er janvier, comme les pailles ou les touillettes. Le plus souvent, c'est remplacé par du bois ou du bambou. Alors, ceci dit, avec parfois pour les pailles, par exemple, des qualités qui laissent encore à désirer. Sinon, si vous êtes très prévoyant, vous avez aussi les couverts non jetables de chez vous que vous pouvez rapporter.
Et puis l'avantage aussi du couvert de bois, c'est qu'on peut le réutiliser presque à l'envi. Quoi. Les cotons-tiges.
Alors là aussi, on a des tiges en bambou, en papier ou en carton biodégradable. On a aussi maintenant des petits cotons-tiges avec des embouts en silicone lavable ou sinon un carré ou un gant démaquillant lavable qui fait l'affaire.
Les films étirables. Moi, j'ai ce qu'on appelle à la maison, ce que mon fils appelle des sélo-miel, qui sont des sortes de tissus imbibés de miel et qui sont en tout cas une très très bonne alternative. alternative aux films étirables.
Ouais, alors c'est un peu plus compliqué sur les films étirables. Effectivement, il y a ces films en coton hein, avec une forme de cire dessus, et puis on a aussi des films alimentaires lavables et réutilisables qui marchent assez bien, qu'on peut trouver assez facilement.
Oui, vous avez raison, ça n'est pas du miel, mais de la cire. Hein, et vous avez bien fait de le noter. Les sacs, enfin, il suffit simplement d'avoir un tote bag où on a tous 50%
de tissu. Oui, ça on connaît bien.
On ne sait que faire. Hein
voilà, on connaît bien les sacs depuis longtemps, comme les cabas en tissu ou en osier, ou des sacs réutilisables en papier, ou même en plastique renforcé, parce qu'il faut bien comprendre que s'il est réutilisé et pas jeté, le plastique, c'est pas forcément la pire des solutions.
Et ces alternatives, elles n'ont que des avantages?
Non, elles n'ont pas que des avantages. Il faut comprendre qu'il n'y a pas une alternative meilleure qu'une autre dans l'absolu, mais une bonne solution pour chaque moment d'usage. Par exemple, une bouteille en verre recyclée, elle a un impact carbone très mauvais, parce que pour la refondre, c'est très gourmand en énergie. Pareil pour une bouteille en verre consigné, si vous la lavez chez vous, ça va. Si vous lui faites faire 500 km pour la laver avant de la remplir, ou si on utilise des litres d'eau pour la laver, c'est pas idéal. Donc on considère parfois que le plastique recyclé, attention toujours s'il ne finit pas dans la nature, ça offre parmi le meilleur bilan environnemental.
En fait, c'est compliqué pour nous quand même consommateurs de s'y retrouver sans culpabiliser.
Ah oui, alors Flavie, l'idée c'est pas de vous culpabiliser, mais c'est d'essayer d'avoir les bons réflexes. Pour tout ce qui est utilisation des objets du quotidien chez vous, les sacs, les bouteilles, les boîtes, la réutilisation c'est le meilleur des réflexes. Et pour l'impact carbone des emballages qu'on trouve en grande surface, on commence à voir se développer des petits logos qui prennent en compte jusqu'à 20 facteurs pour faciliter les comparaisons sur l'impact environnemental d'un emballage. Pour l'instant, c'est très limité à la cosmétique, mais on voit arriver ça dans l'alimentaire, donc patience.
Vous savez, je pensais en vous écoutant à la vente en vrac. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Néanmoins, la crise que l'on est en train de vivre depuis un peu plus d'un an désormais a mis à mal ces nouvelles habitudes. Elle reste encore marginale ou pas?
Oui, elle reste marginale. C'est un peu moins de 2% des achats alimentaires en France. Alors, vous avez dit ça a beaucoup augmenté, mais là encore, la crise a mis un petit coup d'arrêt. Alors c'est une bonne chose parce que même si on ne supprime pas tous les emballages, notamment pour le transport, on supprime les emballages finaux pour le consommateur. Ça fait des économies. En revanche, pour les enseignes, ça ne fait pas toujours des économies parce que c'est des rayons qui sont très chers à entretenir et ce n'est pas encore rentable pour les enseignes. Donc, ce qui explique que ça peut être un peu long à se développer aussi vite qu'on voudrait.
Est-ce que vous avez le sentiment quand même que les consommateurs sont prêts à changer leurs habitudes?
Ah oui, clairement oui. On le voit à la fois dans les sondages, dans ce que disent les consommateurs, mais aussi dans les actes réels dans les magasins, notamment chez les plus jeunes. C'est pour ça qu'on est dans une période un peu de bascule où les marques, les enseignes, les fabricants font vraiment des efforts pour répondre à ces changements d'habitude qui sont très forts. Toute la difficulté, c'est de répondre à ces demandes en trouvant à la fois un modèle économique qui est viable et surtout en trouvant des solutions qui restent abordables pour les Français. C'est le plus important.
Merci beaucoup Olivia Détroya pour tous ces conseils et cet éclairage. Merci. En tant que journaliste spécialiste de la grande consommation au Figaro Éco. À très bientôt Olivia sur RTL.
À très bientôt.
Merci à vous. Place aux asperges.
Il n'y a rien de plus savoureux, la nature n'a rien fait de mieux.
Bonjour Sonia Espignan.
Bonjour Flavie.
La nature n'a jamais rien fait de mieux que l'asperge, le chante René Grolier. Vous connaissiez cette chanson?
Ben non, mais je trouve qu'il a bien raison. Je ne le connais pas, mais bravo.
Vous êtes cuisinière Sonia, vous êtes auteur et journaliste. Et l'arrivée de l'asperge quand même, ça sonne l'arrivée du printemps, non?
Ah oui, non, ça c'est le bonheur. C'est le bonheur. C'est l'intersaison qui nous fait le plus plaisir.
Ouais, mais c'est vrai. Et leur couleur, elle dépend de leur variété. Il y a plein d'asperges
oui,
différentes.
Oui, et en plus, si elles ont vu la lumière ou pas. Donc, effectivement, il y a les asperges très, très blanches. Donc, celles-ci, elles n'ont pas vu la lumière. Il y a juste le petit bourgeon qui, de temps en temps, est un petit peu coloré.
Ah, et puis, c'est sinon, pour ça qu'elles sont talichonnes.
Mais oui, elles sont toutes, elles sont en fait enterrées dans des sillons. Et puis, il y a les asperges vertes. Alors, moi, j'avoue que ce sont mes préférées. Ce sont des, celles qui ont un gros calibre, qui ont, ce bourgeon bien vert. Et qui sont extrêmement. Moi j'aime beaucoup parce qu'il y a et à la fois
comment
du croquant.
Comment vous y allez,
savoureux.
Sonia? Oui.
Non, mais voilà, tout de suite.
Oh, quoi, voilà, tout de suite. Ah, bah non, mais écoutez, à un moment donné, on n'a pas le choix. Et vous savez ce que je préfère, moi? C'est l'asperge sauvage. Non mais je vous jure que c'est vrai, moi j'ai un ami qui a fait dernièrement une promenade du côté de Cassis et qui a ramassé des asperges sauvages. Ça c'est délicieux l'asperge sauvage.
Oui, c'est vrai.
Bon d'accord, on a perdu Sonia Esguignan. On se retrouve dans un instant sur RTL. C'est de votre faute Sonia. C'est de votre grande faute. On se retrouve tout de suite, on va parler recettes. À tout de suite sur RTL.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. jusqu'à 10h sur RTL.
Flavie Flamand, nous voilà bien.
Ça y est, elles sont partout, les asperges. Et c'est Sonia Sguignan qui nous en parle et qui nous donne des recettes. Oh bah dites donc, ce matin, entre les détecteurs de fumée et effectivement ce à table qui nous invite à nous attabler justement et à parler recettes avec Sonia Esgulian, ça ne rigole pas dans Nous Voilà Bien. Sonia, vous êtes notre invitée, on parle effectivement de l'arrivée des asperges qui sonne, l'arrivée du printemps. Dites-moi, comment est-ce qu'on choisit les asperges, Sonia Esgulian?
Alors en fait, les asperges, il faut repérer, on regarde les petites écailles qu'on va trouver tout au long de la tige et surtout au niveau du bourgeon. L'intérêt, c'est qu'elle soit bien droite et collée à la tige. Ça, c'est vraiment un petit indice top. Alors évidemment, les super asperges sont des asperges cassantes. On ne va pas les casser sur l'étal du maraîcher parce que là, on ne va pas se faire un copain. Mais en revanche, on peut regarder que la tige ne soit pas du tout fripée. Ça, c'est hyper important parce que plus l'asperge est ferme, mieux elle sera à la dégustation et surtout à la cuisson. Alors j'ai une astuce pour la cuisson qui est importante. Bon, la saison des asperges, c'est quand même assez court. On achète rarement des ustensiles spécifiques. Il existe une casserole à asperges qui est un petit peu tout allongé. Moi, j'ai une astuce toute simple. On prend le bouquet d'asperges, on va l'envelopper avec du papier sulfurisé. On le noue avec du fil à rôti. Alors, ça fait un petit peu comme quand on fait cuire des poireaux, quand on fait une petite botte. Et on le met, cette botte, dans l'eau bouillante, en laissant, si possible, un tout petit peu dépasser les bourgeons. Parce qu'en fait, la tige va prendre un petit peu plus de temps à cuire que le haut de l'asperge. Donc, on fait cuire à peu près 7-8 minutes. Et avec la pointe d'un couteau, on va tâter en fait l'asperge pour voir si elle est tendre. Et là, on n'hésite pas à enlever tout de suite l'asperge de l'eau bouillante salée et on la plonge dans de l'eau glacée. D'abord, ça va permettre de garder une belle couleur verte et avoir cette fermeté qui est agréable quand on déguste les asperges.
Vous savez, les asperges blanches, moi j'ai l'impression qu'elles sont toujours cuisinées de la même façon. Je ne sais pas trop quoi en penser et quoi faire avec.
Bah, c'est vrai que on fait cette fameuse sauce mousseline. Alors en gros, on n'est pas obligé de se prendre la tête pour faire la grande recette classique. On peut faire une bonne mayonnaise qu'on va alléger avec un blanc d'œuf monté. Donc ça va faire une sorte de petite sauce mousseline. On peut rajouter des herbes aromatiques, des zestes de citron. Moi, je trouve effectivement que c'est un peu plus dur d'être très créatif avec cette asperge blanche. C'est pour ça que j'aime beaucoup travailler l'asperge verte, notamment. Alors, on a plein de façons de la cuisiner. On peut la cuisiner cuite dans l'eau. Moi, j'aime bien aussi l'envelopper, par exemple, d'un peu de jambon cru et de la faire cuire à la poêle. C'est très, très bon. Ou alors, de la couper en deux et de la faire griller sur une... Vous savez, cette poêle en fonte avec qui est un petit peu striée, qui permet de faire cuire
des steaks.
Et c'est pas mal du tout parce que ça apporte un petit goût de grillé à l'asperge et c'est très très bon.
On peut surtout les accompagner de plein de sauces différentes. On vous a reçu il y a peu de temps pour nous parler justement des agrumes. Eh bien moi hier j'ai fait des asperges et j'ai fait une vinaigrette aux agrumes avec.
Ah non mais c'est top. Alors ça les agrumes, c'est la fin de la saison là. Moi j'aime bien les produits qui se rencontrent un petit peu. C'est la fin de la saison des agrumes, des oranges, etc. Et des cédras. Le cédra par exemple se marie très très bien avec l'asperge et c'est ce début de printemps. Alors moi j'ai une sauce que je voudrais vous proposer qui est aussi un peu une sauce presque pour dire au revoir à l'hiver. C'est un houmous que je réalise en fait avec du céleri rave. Il suffit en fait d'éplucher le céleri rave, de le faire cuire à l'eau. Vous pouvez même récupérer un céleri rave d'une recette que vous avez réalisée, genre un couscous ou autre. Et donc ce céleri rave cuit à peu près 300 grammes, on va le mixer avec du tahini. Vous savez, c'est cette purée de sésame qu'on trouve
Absolument.
Dans les épiceries orientales.
Délicieux.
On va ajouter un jus de citron. On peut le détendre un petit peu avec un peu d'eau chaude si on veut obtenir une sauce plus souple. Et puis après, pour ceux qui aiment, on met une toute petite pointe d'ail. On peut ajouter des épices. Moi, j'aime bien un mélange libanais qui s'appelle le za'atar, mais on peut aussi ajouter un petit peu de cumin. Et là, on va mettre un filet d'huile d'olive et puis quelques graines de grenade si vous en trouvez sur le marché. Sinon, vous ajoutez, pourquoi pas, des zestes d'agrumes et vous dégustez les asperges cuites al dente avec ce houmous. Vous m'en direz des nouvelles, franchement, c'est
promis.
Délicieux.
Je vous en dirai des nouvelles, je vous promets. Dites-moi, comment est-ce qu'on les conserve, les asperges?
Alors, très important, elles sont fragiles et elles détestent le réfrigérateur. Donc, en fait, le moins possible, c'est-à-dire que si on les achète samedi ou dimanche, eh ben, on les mange dimanche ou lundi au plus tard. Moi, je ne les mets pas au réfrigérateur, je les enveloppe dans du papier journal. Alors, quand il ne fait pas trop chaud, je les laisse sur le rebord de la fenêtre. Sinon, on peut les mettre vraiment en bas du frigo, mais dans du papier journal, bien enveloppé pour éviter, en fait, que le froid les fasse un petit peu se friter. l'aspect. C'est ça qui va tout de suite abîmer, détériorer l'asperge. Donc on essaye de les consommer le plus vite possible. Et sinon, on les met dans un petit papier journal.
Vous savez ce que je fais, moi? Ce sera mon petit conseil. Et vous, je vais vous demander évidemment votre avis. Mais moi, je prends parfois des asperges vertes crues et je les râpe au-dessus d'une salade, au-dessus d'un riz.
Terrible. Top.
C'est bon ça, hein, c'est une bonne idée.
Donc, moi je faisais, alors je le fais plus, il faudrait que je le refasse cette recette. Ça me fait penser à une recette que je faisais dans mon restaurant. Je prenais des asperges, donc je coupais en très finement comme ça, râpé, et je faisais un rouleau de printemps qui était assaisonné avec de l'huile de pistache. Et c'était cru, c'était vif, on avait un goût très herbacé. Oh, ça me rappelle une jolie recette. Merci Flavie.
Ben voilà, bon, on va savoir quoi faire ce week-end. En tout cas, je vous remercie Sonia Esguillan pour tous ces conseils. Je rappelle que vous avez une page Instagram à votre nom et qu'on y retrouve évidemment toutes les recettes ainsi que sur les réseaux sociaux de Nous Voilà Bien. Merci Sonia.
Bonne cuisine et à bientôt.
Sur l'antenne d'RTL, bonne fin de journée parce que c'est l'heure effectivement. Des bisous chantés par Philippe Catherine. Si vous n'avez pas tout retenu de cette émission, rendez-vous sur le replay, sur l'appli RTL, sur nos réseaux sociaux, je vous le disais, pour l'historique de toutes nos recettes. Moi, je vous donne rendez-vous lundi dès 14h30 sur cette antenne pour En effet pour s'entendre. C'est votre magazine du partage et de la réflexion. Et à la semaine prochaine de 9h15 à 10h pour un nouveau numéro de Nous Voilà Bien. Prenez bien soin de vous, passez un très bon week-end à l'écoute d'RTL, bien évidemment. Je vous embrasse.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.